France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une coproduction des médias francophones publics.
New York, Mexico, San Juan de Porto Rico et Stravinsky à La Havane. Bienvenue à toutes et à tous dans notre randonnée américaine d'aujourd'hui. Décidément, dans Carrefour des Amériques, la ville de New York flirte de plus en plus avec La Havane. On sait combien les musiciens cubains aiment venir se produire à Manhattan et beaucoup s'y installent. Le public américain, de son côté, est friand de musique latina et cubaine en particulier. En 1946, c'est l'orchestre de Machito et de sa sœur Graciela qui sont l'ensemble cubain numéro 1 de New York, suivi de près par Miguelito Valdés qui, cette année-là, invite la chanteuse cubaine Olga Guillot à Manhattan. Ils enregistrent ensemble ce qui est un des premiers grands succès d'Olga Guillot, le son de Miguel Matamoros, Lágrimas Negras, les larmes noires. Bien que tu m'aies abandonné, je ne te maudis pas, et dans mes rêves, je continue à te bénir, sans que tu saches que dans mon champ coulent des larmes noires, noires comme ma vie.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. De colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. Sueños de colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y yo tiene lágrimas negras como mi vida.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont accueilli nombre de grands artistes venus d'Europe, notamment le compositeur russe Igor Stravinsky. Il vient d'acquérir la nationalité américaine et en 1946, il voyage pour la première fois à La Havane pour diriger l'orchestre philharmonique. La presse à Cuba l'annonce à la une et ses concerts sont à la fois un succès artistique et mondain. Stravinsky est surtout très impressionné par la qualité d'écoute du public havanais. Il a programmé les 3 et 4 mars 1946 l'ouverture de Rouslan et Ludmila de Glinka, la deuxième symphonie de Chostakovitch et deux de ses ballets, L'oiseau de feu, que le public havanais connaît bien, et Petrouchka, dont c'est la création en concert à La Havane. Après le jazz qu'il a découvert en 1945 à New York, il est intrigué par la musique afro-cubaine entendue dans la ville. Il compte bien revenir, d'autant plus qu'il a pu rencontrer le peintre Wilfredo Lam qui l'a fasciné. Le retour est prévu en 1951. De son côté, ces années-là, le compositeur cubain José Ardévol voyage beaucoup aux États-Unis où il reçoit des prix, où on crée ses œuvres. C'est un des plus grands admirateurs de Stravinsky à Cuba et Dieu sait s'il est ému quand il peut enfin rencontrer le compositeur russe, un compositeur dont il se revendique plus d'une fois dans ses œuvres. Un extrait du concerto pour piano, instrument avant et percussion de José Ardévol par Ninovska Fernandez Brito au piano et l'ensemble Nuestro Tiempo. À New York, à partir de 1945, le nombre d'émigrants portoricains est en augmentation constante et le Spanish Harlem continue de croître à l'est de Manhattan. Cette année-là, Porto Rico est enfin gouverné par un Portoricain, le premier parti indépendantiste est fondé et l'espagnol est devenu la langue officielle. Parmi les émigrés à New York, un jeune crooner portoricain de 24 ans, Bobby Capó, est invité pour la première fois à Cuba par l'excellente radio Radio Habana Cuba. On l'appelle le Bing Crosby Latino. Il vient de composer son boléro le plus célèbre pour le ténor mexicain Pedro Vargas qui le crée en Argentine et juste après à Cuba. La última noche que pasé contigo, la dernière nuit que j'ai passée avec toi. Tout un programme, surtout que la belle en question a joué la fille de l'air.
La última noche que pasé contigo, la llevo grabada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Hoy quiero borrarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar. Y me dejaste aquella noche como recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Hoy quiero borrarla de mi ser. Y me dejaste aquella noche como recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Hoy quiero borrarla de mi ser. Hoy quiero borrarla de mi ser.
Porto Rico est à nouveau à La Havane le 2 septembre 1946, et cette fois en la personne d'un pianiste d'exception, Jesús María San Roma. Il réside alors à New York. Son interprétation du concerto numéro 5 de Beethoven avait remporté un grand succès en 1941 à La Havane et le voici de retour, cette fois pour un récital. Jesús María San Roma était né en 1902, son père était catalan. Le gouvernement portoricain lui avait octroyé une bourse pour étudier à New York en 1917. Engagé comme pianiste à l'orchestre de Boston, il joue en 1926 le deuxième concerto de Rachmaninov sous la direction de Koussevitzky. San Roma crée aussi des œuvres des compositeurs de son temps, Prokofiev, Stravinsky, Ravel, Martinu, Hindemith, à qui le lie une grande amitié. À La Havane, en septembre 1946, malgré la chaleur de la fin d'été tropical, le théâtre est plein. Il joue Haydn, le Padre Soler, Beethoven, Schumann, Debussy, Shostakovich et Villa-Lobos. À son retour à Porto Rico, Jesús María San Roma aide le violoncelliste Pablo Casals, en exil à San Juan, à fonder son festival de musique, le festival Casals, qui existe toujours. Et il enregistre les danzas portoricaines de Juan Morel Campos, le père de la musique portoricaine au XIXe siècle.
Thank you.
Deux danses portoricaines de Juan Morel Campos, Alma Sublime, No Me Toques, Ne Me Touche Pas, par le pianiste Jesús María San Roma. En 1946 à La Havane, les radios ont toutes des programmes musicaux excellents. Le compositeur et chef d'orchestre Gonzalo Roig, par exemple, enregistre une zarzuela espagnole ou cubaine tous les mois à la radio. Le portoricain Francisco Montilla, qui a son propre label de disques à San Juan, entre en contact avec lui afin d'enregistrer pour la première fois la zarzuela de Gonzalo Roig, Cecilia Valdés. Or, en 1947, la grande mezzo noire de Porto Rico, Ruth Fernandez, vient de chanter à Cuba avec un grand succès. Gonzalo Roig est impressionné, il l'engage pour interpréter le rôle de l'ancienne esclave Dolores Santa Cruz dans sa zarzuela, dont l'enregistrement débute en 1948. L'interprétation par Ruth Fernandez de l'air de l'ancienne esclave qui erre désespérée la nuit dans les rues de la Havane est restée légendaire.
Oh, oh. Thank you. con me. Po, 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 toiti con lo abogado. Po, 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 y caballero blanco. Toitico cuanto tenga, le robaron toitico su dinero. A Dolores Santa Cruz.
La merveilleuse voix de la mezzo-soprano portoricaine Ruth Fernandez. Il est temps à présent de retrouver nos quartiers à La Havane, où la saison de concerts de l'orchestre philharmonique s'achève magnifiquement avec Erich Kleiber à la baguette. À la fin décembre 1946, il dirige Siegfried Idyll de Wagner et la deuxième symphonie de Borodine. Il a aussi invité Joaquin Nin Koulmel, un compositeur et pianiste cubain qu'il aime beaucoup. Nin Koulmel réside alors aux États-Unis, où il vient de créer son concerto pour piano et orchestre le 9 décembre. Nin Koulmel est resté très attaché à Cuba. Il sait qu'il va y retrouver son père, le pianiste et compositeur Joaquin Nin Castellanos, qui a quitté Paris au début de la Deuxième Guerre mondiale et qui est revenu vivre à Cuba. Nin Koulmel crée son concerto au théâtre Auditorium, où il est, comme toujours, accueilli en enfant du pays et le public lui est fidèle. Quand on demandait à Joaquin Nin Koulmel s'il pensait, comme les Havanais, qu'il était vraiment cubain, il avait coutume de dire qu'il avait un passeport cubain, mais que sa formation était vraiment plurielle, avec des racines en France, essentielles, en Amérique où il vivait et en Espagne. Comme il le disait à un magazine espagnol en 1998 à l'occasion de ses 90 ans, tout ça, c'est de la folie. Alors, si on doit me relier aujourd'hui à un endroit quelconque, c'est sans doute l'Espagne. Thank you. Enrique Pérez Mesa à la tête de l'Orchestre Symphonique National de Cuba et Daniel Blanc au piano dans ce troisième mouvement du concerto pour piano et orchestre de Joaquín Nin Culmell. Pour Erich Kleiber à La Havane 1946, c'est une année heureuse. Sa famille est venue vivre à La Havane. Son fils Carlos Kleiber s'est toujours souvenu de leur maison sur une petite colline qui dominait la ville et la mer, et de la personnalité d'Ernest Hemingway que son père lui avait présenté. Par contre, pour Joaquín Nin Culmell, la rencontre à La Havane avec son père Joaquín Nin Castellanos n'est pas simple, même s'il a toujours tenté de dialoguer avec lui, alors que sa sœur Anaïs Nin y avait renoncé depuis longtemps. C'était tout sauf un père, disait-il. Il nous avait abandonnés. Mon père a toujours été comme un enfant. D'ailleurs, je l'ai toujours appelé de son petit nom Joaquinito, alors que lui m'appelait Joaquín. Puis il ne s'est jamais occupé de nous, ni de moi, ni d'Anaïs. C'était un excellent musicien, un homme brillant, et il était très beau. Mais cette beauté et son charme ont été sa némésis. Quand j'allais le voir à Cuba, on se parlait parfois. Mais il ne se rendait pas compte du mal qu'il nous avait fait. Et puis il vous regardait toujours de ses beaux yeux bleus. Alors on lui donnait le bon Dieu sans confession. En 1946, c'est la dernière fois que Joaquín Nin Culmell a vu son père vivant.
Thank you.
Daniel Blanc au piano, l'Orchestre symphonique national de Cuba dirigé par Enrique Pérez Mesa dans le deuxième mouvement du concerto pour piano et orchestre de Joaquín Nin Culmel. En 1946, le compositeur populaire cubain César Portillo de la Luz compose ce qui sera son plus grand succès non seulement à Cuba mais dans toute l'Amérique latine, Contigo en la Distancia. Je suis toujours avec toi, malgré la distance qui nous sépare. On écoute le ténor vénézuélien Alfredo Sadel, une véritable idole dans son pays, enregistré ici en direct à Caracas à la fin des années 50. C'est lui qui a inauguré les premiers programmes de la télévision vénézuélienne en 1953, et c'est 2 ans après qu'il chante à La Havane, il avait 25 ans.
Una canción que nació en Cuba, pero que es muy universal, porque habla del tema eterno del amor distante, contigo en la distancia del maestro Portillo de la Luz. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si es que me faltas tú. Es que te has convertido de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de la noche, el olvido y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido. Más allá del olvido, la noche y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
Carrefour des Amériques. Une série de Marcel Quilivéré pour les médias francophones publics.
Ah, le boléro cubain, toujours aussi populaire dans toute l'Amérique latine et en Espagne, évidemment. Le 2 avril 1946, le compositeur Ernesto Lecuona quitte Hollywood. Il a rempli son contrat avec la Fox. Il rentre à La Havane, où il vient d'être nommé président de la Fédération nationale des auteurs et où on crée au théâtre Auditorium sa dernière revue, Mujeres, femmes. Il emménage aussi dans sa nouvelle villa, La Comparsa, dans un beau jardin au sud de La Havane, où il va résider de 1946 à 1953. Et c'est dans le calme de cette villa qu'il commence à composer un opéra qui est resté bien mystérieux jusqu'à ce jour. Son titre, El Sombrero de Yarey, du nom du grand chapeau des paysans cubains en fibres de palme tressées. C'est l'une de ses dernières œuvres resté inachevé. Il avait collaboré avec le meilleur librettiste de Zarzuela en Espagne, Guillermo Fernández Cho, et l'opéra était une comédie qui chantait la diversité de la culture cubaine. Il y avait notamment 2 ballets, l'un créole et l'autre afro-cubain. On écoute la version pour piano du court prélude et un allegro en forme de sapateo cubain des campagnes, interprété ici au piano par Tomás Quirino. L'histoire de la composition de l'opéra Le Sombrero de Yarey d'Ernesto Lecuona reste encore un mystère. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est un manuscrit daté Jackson Heights, New York, 1946. Un manuscrit qui ne comporte que quelques extraits. Un grand ami de Lecuona affirme avoir emporté avec lui en Espagne le manuscrit complet, ainsi qu'un enregistrement réalisé par Lecuona au piano. Le compositeur l'aurait alors ramené avec lui à New York. Mais seuls ces extraits manuscrits nous sont parvenus. On écoute un allegro et une danza dans la version pour piano seul, interprétée toujours par Tomás Quirino. Au printemps 1947 à La Havane, la saison d'opéra est bien courte. Deux œuvres seulement, Rigoletto de Verdi et la Bohème de Puccini, avec notamment le ténor américain Eugene Conley. Le rôle de Gilda dans Rigoletto est interprété par une jeune soprano portoricaine de 26 ans, Graciela Rivera. Elle venait de chanter dans une production de La Chauve-souris de Johann Strauss pour les troupes alliées au-delà des mers, en particulier en France et en Allemagne. En 1951, 4 ans après sa Gilda de La Havane, elle sera la première artiste lyrique portoricaine à chanter sur la scène du Metropolitan Opera de New York, dans le rôle de Lucia di Lammermoor. Dans les années 50, elle a enregistré des mélodies portoricaines du 19e siècle qui l'avaient rendue très populaire à San Juan. C'est le seul bon témoignage qui nous reste d'elle. Et nous allons nous quitter avec le percussionniste cubain Chano Pozo qui arrive à New York en 1947. Il joue souvent avec le trompettiste cubain Mario Bausa qui le présente à Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie qui cherchait justement un joueur de conga et Bausa lui présente Chano Pozo. C'est ainsi que cette même année, Gillespie et Chano Pozo jouent ensemble au Town Hall de New York. Leur plus grand succès, c'est le célèbre Manteca. Manteca, c'est un terme culinaire qui veut dire la graisse, le sein doux. Mais bien sûr, il a un autre sens, il est synonyme de marijuana dans l'argot afro-cubain de New York. le 2 décembre 1948 dans un bar de Harlem, Chano Pozzo a un démêlé avec un trafiquant qui le tue à bout portant. Chano est resté légendaire à Cuba et aux États-Unis. Se quitter avec le fameux Manteca de Dizzy Gillespie et Chano Pozzo ne peut que nous apporter de la joie. On se retrouve dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Brutner et Olivier Dupré, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.